Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille-André Copédia-Ménardi, prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi, ce soir, Fabienne Pascaud, Marie-Josée Serrache et Philippe Chevillat, notre affiche Ithac, notre Odyssée, écrit et mis en scène par Christiane Jataï, d'après Homer, c'est à l'Odéon Théâtre de l'Europe. La maladie de la famille M, anatomie d'un western en famille de Fausto Paravidino, mise en scène Simon Fraud, c'est au Théâtre 13. Et Beach Raven, écrit et mis en scène par Frédéric Sontag, au Nouveau Théâtre de Montreuil. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le spectacle Les Émigrants, The Ghost Chasers, de Volodia Serre, à voir en deux parties, jeudi 29, vendredi 30, à 19h au Théâtre de la Bastille à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec un nouveau spectacle signé Christiane Jataï, artiste associée à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Spectacle présenté aux ateliers Berthier. La metteur en scène brésilienne aime revisiter les classiques. Après Shakespeare, Tchekhov et Strindberg, elle prend cette fois pour point de départ le grand récit fondateur de notre civilisation, l'Odyssée, et s'inspire d'Homère pour savoir qui sont les Ulysse et les Pénélope d'aujourd'hui. Essayer de comprendre leurs motivations en bravant les épreuves pour l'un, en gardant espoir et en prolongeant l'attente pour l'autre. Les spectateurs sont placés de part et d'autre de l'espace de jeu dans un dispositif donc bifrontal et voient ainsi l'histoire soit du côté du héros parti à la guerre de Troie, soit de celui de sa femme qui l'attend sur son île, et puis on changera à mi-parcours. Jataï questionne donc l'exil, l'attente, le retour chez soi. Trois comédiennes brésiliennes, trois acteurs français qui se donnent ici la réplique.
Quand il est parti, il m'a laissé un mot. Courage.
Je n'avais pas le temps de dormir, en fait. Je ne dormais que 4 heures toutes les deux nuits. En fait, des gens sont tombés à un moment. Ils ne pouvaient plus continuer. Certaines personnes de mon groupe voulaient aider ces gens-là. Mais j'ai dit non, on n'aide personne. Pas dans ce cas-là. J'ai entendu des voix crier vers nous, revenez, revenez. J'ai dit, je ne reviendrai pas. Alors on a traversé. Et on a marché à travers des fermes jusqu'à ce qu'on atteigne une sorte de forêt.
Voilà pour le teaser, puisque maintenant même les théâtres donnent des teasers sur leur site. Teaser, je ne me rappelle plus du mot québécois pour le remplacer, aguicheur, quelque chose comme ça. Donc, que pensez-vous de cet aguichage, non plus sérieusement, de cette proposition de Christiane Jataï? Fabienne Pascaud, pour commencer.
Écoutez, Dieu sait que j'étais jusqu'à présent une inconditionnelle de Christiane Jataï, aimant tous ses spectacles, toutes ses propositions, toujours à partir d'un espace repensé, puisque c'est l'espace qui est la base même de son travail, un espace qu'elle transfigure encore avec la caméra, qui est toujours très très importante dans toutes les représentations qu'elle fait, où les acteurs eux-mêmes se filment, où on voit la situation de plusieurs points de vue différents. C'est le cas, comme vous l'avez dit, pour Ithac, où on a le point de vue de Pénélope d'un côté, qui n'est jamais réellement mentionné, hein, et puis le point de vue de Calypso de l'autre, la maîtresse qu'Ulysse s'apprête à quitter pour retourner auprès de Pénélope. Là, je dois dire que j'ai eu du mal parce que je trouve que il y a tellement pas de texte et c'est tellement indigent ce qu'elle nous propose. La première partie, moi, j'ai commencé par Calypso, mais c'est à peu près pareil pour Ithac, où on vous propose des chips et des cacahuètes et des verres d'eau à n'en plus finir avec les mêmes blagues. Il n'y a pas d'alcool parce que bon, tout ça sent L'improvisation, bien sûr, elle travaille à partir d'improvisation, Christiane Jataï, et c'est ce qui nourrit, ce qui donne la structure. Mais là, l'improvisation, j'avais l'impression que c'était vraiment sur le plateau, et j'ai trouvé les acteurs français, autant les trois actrices brésiliennes sont magnifiques, de sensualité, de vérité, autant les acteurs français, je les ai trouvés calamiteux, les trois hommes, comme par hasard. Hein. Et alors, c'est vrai que c'est habile, tout y est pour nous faire réfléchir. Il y a des phrases, des textes de réfugiés qui sont entremêlés, la manière de faire circuler le spectateur d'un lieu à l'autre, c'est aussi une manière de figurer l'exil qu'on vit aujourd'hui. Alors, je dois dire que j'ai été bluffée par les 20 dernières minutes qui sont, c'est vrai, très belles. Pourquoi ? Parce qu'on voit les acteurs patauger dans l'eau, et tac. Et bon, mais c'est vrai que c'est très beau, que ça figure la guerre, que ça figure le Brésil aussi, là, elle nous parle de son pays qui patauge dans la corruption, comme les acteurs patauchent dans la flotte. Mais bon, so what, quoi. Je dois dire que je suis sortie très énervée, parce qu'il y a tout pour que ce soit brillant, il y a tout pour que ce soit bien, mais il manque le texte. Et là, je veux pas jouer la vieille fille, mais c'est vrai que c'est pas nourri, quoi. On en sort... J'en suis sortie, moi, pas assez nourrie, quoi. J'ai l'impression que la dramaturgie manquait, qu'elle avait raté un peu son coup, en ce qui me concerne.
Alors, avez-vous été nourrie, Marie-Josée Sirache, par cette Ithaque de Christiane Jataï ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un spectacle surprenant. On est assez décontenancé pendant la première partie. On se demande
où... Vous avez commencé par quoi,
Moi, j'ai commencé par Pénélope.
D'accord.
Voilà. Donc j'étais de ce côté côté Ithaque. Je n'avais absolument pas saisi que c'était un bifrontal. Moi, j'ai marché. C'est-à-dire que j'ai découvert que...
Vous n'aviez pas vu à travers le
pas
voile.
Du tout.
Vous n'avez pas entendu qu'il y avait des gens qui...
J'entendais
qui
des
parlaient
voix,
de l'autre côté.
J'entendais des sons, de la musique. Ouais. Je me disais que voilà, c'était un hors-champ qui nous parvenait par bribes. Donc tout ça, pour moi, ça fonctionnait. Et je comprenais pas trop, effectivement, ces jeunes gens qui sont là, ces prétendants autour de Pénélope, avec quand même quelque chose de violent, qui ne dit pas son nom, qui est là dans les rapports humains, la façon dont il s'adresse à Pénélope, en même temps respectueux, et on sent qu'il voudrait bien prendre la place, sa place, et prendre le pouvoir. Mais c'est une fête, donc on partage les derniers cacahuètes qui restent. Ça ressemble à une fin de fête, donc tout le monde est un petit peu éméché, titube. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent réellement. Et puis quand soudain on nous demande, nous spectateurs, de se lever, de rang par rang, de manière extrêmement bien ordonnée, très sagement, ce qu'on fait tous. En tout cas moi, le 22 mars, le soir, je crois que c'était la première, il me semble. En tout cas ça s'est passé comme ça. Nous avons absolument respecté les consignes d'évacuation, enfin de déplacement. Et là j'ai compris donc qu'il y avait des spectateurs de l'autre côté. Mais bon, peu importe. Et tout d'un coup, je trouve que là, la pièce, elle prend tout son sens, toute sa dimension. Comme si ce qui était dans l'air, ces mots à peine, ces idées à peine effleurées, s'emboîtaient les unes dans les autres et ça prenait sens. Et c'est-à-dire que c'est effectivement un grand voyage auquel elle nous convie, une histoire d'exil, de fuite, de pouvoir, de guerre, d'attente, d'amour, de désamour. Et ça renvoie aussi bien à Homer qu'au Brésil d'aujourd'hui, avec la corruption, qu'à l'histoire des réfugiés, c'est-à-dire que cette eau qui va peu à peu envahir le plateau, c'est cette eau qui envahit aussi les bateaux des frêles esquives des réfugiés qui traversent la Méditerranée, qui est devenu un tombeau à ciel ouvert. Voilà, c'est tout ça. J'ai ressenti très fortement les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire que de Pénélope jusqu'à nos jours, les femmes sont quand même la proie de prédateurs. Et ce qui était très émouvant le soir de la première, les actrices brésiliennes, au moment des saluts, sont venues et ont brandi des petits panneaux pour saluer la mémoire de Marielle Franco, qui est cette militante et élue des favelas de Rio de Janeiro, qui s'était faite assassiner quelques heures auparavant. Donc c'était... Et tout d'un coup... Moi, ça m'a vraiment beaucoup ému. J'ai été bouleversée à ce moment-là parce que tout faisait sens dans ce théâtre-là, qui est une esthétique assez particulière, qui va dans des endroits où on n'a pas trop l'habitude d'être entraîné. Il y a une vraie liberté en même temps dans les corps, notamment des filles, je trouve. C'est vrai que ces actrices, elles sont somptueuses, elles sont belles, elles se déplacent avec une joie assez assez contagieuse.
Quand même, non ?
La première partie, je suis d'accord, mais je pense que c'est voulu, cette ennui-là.
C'est réussi.
Merci. Non, mais c'est voulu parce que l'ennui disparaît aussitôt après. Enfin, dans la deuxième partie, je trouve que tout d'un coup, cet ennui-là, pourquoi, moi, parfois, on peut s'ennuyer aussi, ça me dérange pas trop, l'ennui, sauf si ça s'éternise. Et là, justement, je trouve que le renversement de situation, de plateau, de point de vue, fait que tout d'un coup, on rentre dans l'histoire de plein pied cette fois-ci.
Alors, avis cette fois de Philippe Chevillier avant de continuer les paroles.
Alors ça va être un crescendo positif, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle, conscient de tout ce que vous avez dit, l'une et l'autre. D'abord, je pense qu'il y a chez Jatahi, contrairement à ce qu'on dit, elle sait toujours où elle va, et il n'y a jamais de contresens. C'est-à-dire que d'un côté, Ithaque, Pénélope, elle est avec ses prétendants, il y a une attente qui est exaspérante, et du côté de Calypso, on est à Ulysse, est pressé de partir, Calypso veut pas, et il y a cette attente qui est là. Donc c'est pas faux tout ça, simplement cette attente qu'on vit quand même, je le reconnais, pendant près de 1h15, même peut-être un peu plus. Il y a des moments, c'est pas un spectacle de texte, il y a
un côté sûr.
Performance sur le plateau, et même, j'irais même, parce que là j'irais dans le sens de Fabien, on peut se dire qu'on a vu d'autres choses sur plateau avec des improvisations qui sont plus brillantes dans le texte. Mais c'est vrai que moi j'ai tout d'un coup, alors il y a des bribes, qui sont soit des bribes des textes de migrants à certains moments, d'autres, de l'autre, il y a ces musiques qu'on entend, Maria Bethania, ces musiques qui vous mettent un peu dans une atmosphère particulière. Dans Calypso, il y a déjà les images de l'amour qui sont projetées, qui sont de très belles projections sur le rideau de ce qui s'est passé, je pense, entre les rideaux qui a été filmé par les comédiens. Il y a des petites touches qui commencent à vous gagner. Et lorsqu'on est passé de l'autre côté et que tout d'un coup l'eau monte, il y a une intensité qui se crée sur le plateau. Et là, c'est ce que dit, moi, je suis d'accord avec Marie-Josée, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit cette attente, cet ennui. Moi, ça me l'a fait dans des films aussi où j'ai l'impression qu'il y a toute une première partie qui est où j'ai l'impression de m'ennuyer. Et tout d'un coup, je me dis s'il y avait eu plus de bris, dans cette première partie, plus de choses qui m'auraient...
Je ne suis pas sûr qu'elle l'ait fait exprès, Philippe.
Moi, je l'ai ressenti.
Si, je pense qu'elle joue sur l'attente, il a raison.
Alors, je ne sais pas si elle l'a fait exprès, mais peu importe. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je trouve que le moment où justement ces deux rideaux se lèvent, où tout d'un coup on voit le plateau, où tout d'un coup ils se mettent à filmer les comédiens et qu'on voit sur un écran la guerre, et tout d'un coup, c'est ce que Marie-Zosie, on repense au Brésil à ce moment-là, on repense aux migrants, on repense à la guerre, on repense à ce que représente Ulysse. Ulysse qui en fait...
Il a gagné la guerre, lui.
Il a gagné l'amour, il retrouve l'amour, mais il va se venger en plus. Et il y a la violence des femmes, vous l'avez dit, et c'est très important, là aussi. Tout d'un coup, moi, c'est venu en salve à la fin du spectacle, et du coup, je me suis dit, est-ce que si la première partie m'avait distrait avec des choses plus brillantes, j'aurais été aussi touché par la seconde. Donc, voilà pourquoi ce spectacle... Et je me dis, pour finir, qu'on est là pour être... Souvent au théâtre, on peut avoir un spectacle qui est très beau, divertissant, ou très fort, très puissant, mais quand on est déstabilisé au théâtre, et qu'après le spectacle vous gagne, vous emporte, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé de plus fort, et moi j'aime bien cette sensation. C'est pour ça que je ne suis pas sorti énervé comme Fabienne, je suis sorti...
Comblé, énervé, accablé.
Non mais vous avez dit tout à l'heure.
Oui, mais accablé, parce que je l'aime beaucoup, donc là j'ai été déçu.
Accablé, c'est pire. Bon, oui. C'est pire.
Et soudain le crescendo décrescendi. Puisque moi je veux dire que c'est toujours le même problème avec Christiane Jatahi. Je trouve qu'elle a toujours des très bonnes idées, de dispositifs, d'occupation de l'espace. Et je trouve qu'au bout du compte, malgré tout, ça fonctionne jamais tout à fait. Alors là, je trouve que ça fonctionne tout à fait pas.
Merci.
Non mais alors pour exemple, donc si on a compris que ça se joue sur les deux côtés du plateau, moi j'ai été très gêné. Au niveau sonore, par les éclats de l'autre côté qui m'empêchaient souvent d'entendre ce qui se disait du côté où j'étais. Pourtant, on voit forcément...
Parce que je ne disais pas grand-chose.
Oui, mais justement, on n'a pas envie d'en rater. Et donc, moi, je trouvais que j'en ratais. Bah, pardon, mais vous trouvez formidable les comédiennes brésiliennes, et moi je ne comprenais pas non plus tout ce qu'elles disaient.
Enfin, oui, mais au moins elles ont une chaleur, une existence, oui, bon, ça, une sensualité.
C'est de l'exotisme, ouais, pour l'exotisme.
Et puis ça faisait partie du spectacle, parce que plusieurs fois...
Non, mais attendez, le running gag de « elle commence à jouer en brésilien » et les acteurs français disent « on ne comprend pas » alors qu'il y a les surtitres sur le rideau, c'est ridicule, ça va une fois, mais pas quatre ou cinq.
C'est pas un running gag, c'est pour exprimer...
C'est un mauvais running gag.
Le fait qu'on ne comprend pas le migrant qui parle,
voilà, c'est ça, c'est la démagogie, c'est facile d'évoquer les immigrés.
C'est très lourd. Globalement, moi j'ai trouvé le code de jeu assez pauvre. C'est vrai que ces impros sans fulgurance, je trouve qu'il y a une mollesse générale qui caractérise tout. Et alors quand ça s'énerve, quand les eaux montent, il y a un moment donné, moi, pour le coup, ça a pu m'énerver aussi, quand Karim Belkacem, l'un des comédiens français, traîne par les pieds une des Pénélopes et commence à la violenter.
Comment une femme peut faire ça? Comment une metteuse en scène peut faire ça?
Mais j'ai pas compris l'enjeu ou le sens. Moi, je me suis dit, alors, parce qu'après, le pire, c'est quand même qu'il y a un des autres comédiens qui lui dit, en gros, c'est parce que t'as une tête d'arabe que tu es violent, on aurait dû se méfier de toi. Depuis le début, je me méfiais de toi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut m'expliquer ça?
Une femme ose mettre une telle femme dans une situation
d'esclavage. Et en plus, du doigt l'arabe, quoi.
L'arabe, c'est monstrueux.
C'est très bizarre.
À la fin du chant d'Ulysse, je crois qu'il y a ces femmes qui sont pendues et qui c'est dans la vengeance d'Ulysse. C'est exprimer la violence des hommes faite aux femmes. C'est volontaire.
Oui, mais pourquoi ce comédien-là?
On n'est pas obligé. C'est pas parce qu'elle n'est pas obligée dans sa mise en scène d'en rajouter, d'en inventer.
Ben, elle veut, à la fin, elle veut nous montrer la violence et la mort.
Mais pas des femmes.
Non, on voit des gens qui gesticulent, qui traversent le plateau dans tous les sens sans que je comprenne pourquoi ils font ces déplacements plutôt que
d'autres. Sur l'écran, non. On comprend bien que c'est quand même des corps gisants, plus ou moins.
Oui, qui ont échoué là, qui...
Ouais, enfin, c'est pas d'une. Enfin, ça prend beaucoup de temps pour le faire, quand même. Je trouve que c'est une forme de complaisance, quand même, qui, moi, m'a pour le coup dérangé. De la même façon, vous l'avez évoqué, il y a trois moments dans le spectacle où, donc, on lit des carnets de bord, carnets de route, journaux de migrants qui racontent des moments de leur traversée, le départ, la traversée, l'arrivée. Alors. Disséminer de cette façon, moi je trouve que ça perd vraiment de ce qui aurait dû être ou pu être la force de ces témoignages. J'ai l'impression qu'ils étaient là comme un passage obligé, quelque chose qui est dans l'air du temps, etc. Mais qui c'était pas vraiment pris en considération. J'ai trouvé presque ça décoratif.
C'est dégagé, ça permet de dire non, mais que le spectacle est politique.
Ce qui est quand même un comble. Moi je trouve ça assez grave d'utiliser des témoignages dont on imagine bien que ce sont des vrais témoignages. De s'en servir de cette façon-là, ça vous a pas gêné, Marie-Josée Sirach?
Non, parce qu'en fait, moi, j'ai le sentiment qu'elle provoque, que quelque part, c'est provoquer, attirer notre attention en disant, regardez comme je les maltraite. C'est presque la double peine qu'elle leur inflige, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'elle en rajoute dans le fait que cette parole-là ne nous arrive pas, ou de manière très lointaine, ou très peu.
C'est peut-être trop fin pour moi, alors, finalement. Je lui dis ça au premier degré.
Moi, en tout cas,
degré,
je considère que c'est une femme intelligente.
Ah, mais moi aussi, j'en suis sûr.
Elle a le sens d'une esthétique au théâtre, de quelque chose qui vient nous déranger, qui n'est pas habituel. C'est vrai qu'elle peut nous choquer, qu'elle peut être dans la provocation, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que on sent qu'elle est au travail en permanence, dans le questionnement, qu'elle remet ça sur le métier.
Moi, elle me choque pas du tout. Hein. Elle me choque pas du tout.
Bah, si vous étiez choquée par ces femmes qu'on
dans le continuum du spectacle, je trouve ça tellement faible que je ne suis pas choquée ni dérangée. Je suis choquée, c'est par sa manipulation de la politique. C'est pas parce qu'on met trois paroles. C'est facile de se donner bonne conscience dans un spectacle en mettant trois paroles de migrants.
Mais je ne pense pas que ce soit pour se donner bonne conscience. Non, parce qu'elle fait le rapport, il me semble, avec ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, et ce qui se passait, au moment où Homer écrit la pièce, c'est-à-dire que il y a une guerre qui est sourde, qui ne dit jamais son nom aujourd'hui, mais finalement c'est une sorte de guerre larvée qui est très violente, qui fait des victimes aussi bien au Brésil qu'en Afrique subsaharienne, en Afrique et en Méditerranée et chez nous. Et que tout ça, on est habitué. Et elle vient nous dire, regardez comment on est habitué. Et finalement, ces jeunes gens qui, au début, nous accueillent, nous tendent des chips, des cacahuètes, il n'y a plus rien. Ils ne savent même plus quoi se dire. Ça dit quelque chose aussi de ce monde qui est, finalement, on est dans la fuite, on baisse le regard, on passe à côté pour ne plus voir ça. On ne sait même plus quoi dire, il n'y a plus de réponse politique. C'est ça aussi ce que dit ce spectacle, quelque part. Ce qui est un vide politique qui fait qu'on ne sait plus trop comment affronter ce monde-là.
Mais alors peut-être que c'est trop intelligent. Peut-être oui, que c'est... Non, mais je dis ça. Mais premier degré, parce que je pense, et pour avoir eu l'occasion de parler avec Christiane Jattei, c'est quand même quelqu'un de brillant, qui réfléchit, qui pense, etc. Mais peut-être que tous ces fils qui sont là, ils sont quand même beaucoup trop masqués. Et que, enfin, bon, encore une fois, peut-être que je manque de finesse en regardant ce spectacle-là. Mais j'entends ce que vous dites et ça peut se concevoir intellectuellement. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on reçoit? Bon, Fabienne Pascaud et moi, c'est pas ce qu'on a reçu. Non. Vous avez reçu cela, Philippe Chevrier.
Oui, parce que, d'abord, je pense qu'elle a beaucoup travaillé.
On était le même soir, tous les trois.
Ouais. Oui, mais pas du même côté. Moi, j'ai commencé Ithaque, je vous l'avais pas dit, mais j'ai commencé Ithaque, avec Ithaque. Je pense qu'il y a aussi un... Alors, j'en reviens à cette idée d'attente et d'exaspération qui, je pense que c'est créé assez volontairement et que ces bribes qu'on entend, encore une fois, elles prennent sous une forme... très spectaculaire, parce que quand même, pour les spectateurs qui ne sont pas allés, les images de la fin, moi, j'ai entendu tout le monde dire ça, quand même, les gens qui ont détesté le spectacle, les images de la fin, elles sont quand même d'une force...
Moi, je ne trouve pas, personnellement, bon.
Elles sont vraiment belles, quand même.
Moi, ça m'a... Bon, voilà, un plateau qui s'ouvre avec de l'eau, on en a vu 1000 fois de ces 14 dernières saisons, donc vraiment, je me suis dit, ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de l'eau sur un plateau, mais...
Il y a de la pluie en plus.
Oui, il y a de la pluie, mais l'eau qui monte,
oui, non, ça goûte.
L'eau sur un parquet,
le rideau
ça
goûte.
Fait pluie.
Oui. L'eau sur un parquet, le rideau qui goûte, bon. Le film qui montre les gisants. Bah, pour moi j'ai, c'est, et j'en ai vu aussi beaucoup. Je trouve que c'est très beau. Et je pense qu'il y a cette l'élément qui n'est pas celui du texte, mais il y a une vie sur scène, alors qui est plus ou moins bien. Incarné, mais notamment par les actrices brésiliennes, par moments par les acteurs qui sont, je crois, il y en a un belge, un français, peut-être suisse, Belkacem, il me semble qu'il est suisse.
Ils sont quand même très mal dirigés, les hommes. Les hommes sont très très mauvais, on peut le dire.
Non, moi je ne vois pas de distinguo entre hommes et femmes.
Ah non, les femmes, moi je les trouve.
Oui, on n'est pas tout à fait d'accord, Fabienne.
Oui, non, mais je pense. Moi j'ai l'impression d'être manipulée par ce spectacle, en fait, c'est ça qui m'a.
Oui, mais un spectacle qui manipule, c'est un spectacle qui assène. C'est un peu notre innocence de Waji Mohad qui assène, mais là on n'est pas du tout dans le. Dans le spectacle qui assène, puisque justement c'est des bribes et on voilà.
Alors quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Marine Stizy qui est carrément éblouie par la scénographie de cette Ithaque. Gabriel Feuillade qui parle d'une vraie réussite, une proposition forte de théâtre qui ne garde que l'essence du texte d'origine. Super mise en scène, acteur brillant, beaucoup de bonnes idées, mais ça part un peu dans tous les sens. Les films ne sont pas tirés jusqu'au bout et s'entremêlent jusqu'à une certaine confusion et un trop-plein sans doute à affiner un peu. Et puis Axel Ito qui dit parce qu'on peut raconter une histoire comme Ithaque de mille manières, Christiane Jattei forever, et Julia Bernat aussi, qui est l'une de ses actrices, évidemment. Et Jules Morgan, pour terminer, disons que c'est très, en majuscule, éloigné d'Homère, le propos est surtout l'exil et l'absence, l'attente, pas l'aventure. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Marie-Louise Hirache, l'attente.
L'attente, bien sûr, et je trouve qu'elle réussit.
Bon, allez voir par vous-même, cette Ithaque, notre Odyssée, alors il y aura une deuxième partie, hein, vous le savez, Fabienne Pascaud. On fera le match retour la saison prochaine. En tout cas, nous l'espérons.
Pourtant, il est arrivé, là, Ulysse.
Mais c'est prévu, vous avez pas... j'ai vu ça dans le...
Il reste quelques champs. Que
pendant le spectacle, j'ai eu le temps de lire le dossier de presse pour une fois. C'est vrai que je ne le fais pas toujours. Mais là, j'ai vu qu'il y avait un deuxième volet pour la saison 18-19. Donc, en ce moment, jusqu'au 21 avril, aux ateliers Berthier à l'Odéon. Et puis, ce sera à Lisbonne, du 7 au 11 juin, à la Ruhr Triennale en Allemagne, où vous avez vos habitudes, Fabienne, vous pourrez revoir le spectacle du 13 au 16 septembre. Il reviendra à Paris ce spectacle. Du 1er au 6 octobre, vous pourrez le retourner le voir au 104. Du 7 au 17 novembre au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Et puis enfin, du 29 novembre au 2 décembre au Centre culturel Onassis à Athènes. Avant donc notre Odyssée 2. À suivre dans la dispute, Fausto Paravidino et Frédéric Sontag.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au spectacle vivant, en nous rendant cette fois au Théâtre 13 pour y découvrir la mise en scène que signe Simon Frot sur un texte de Fausto Paravidino, La maladie de la famille M, anatomie d'un western en famille, ce qui est déjà un titre plein de promesses, mais sont-elles tenues? Réponse de nos critiques après cet extrait.
Des fois j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi.
Là, tout de suite?
Non, des fois.
Quand?
Je sais pas, c'est difficile à dire, c'est une sensation.
D'accord, mais explique.
Je sais pas. Quand t'es avec tes copains, t'es différent, j'ai l'impression que t'en as rien à foutre de moi.
Ils étaient là avant toi.
Je sais.
J'ai pas envie de changer mes rapports avec eux à cause de toi.
Ouais.
C'était juste ça?
Non.
Je me disais aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore?
T'as pas envie de parler?
Si tu veux parler.
T'as pas envie?
Non, j'ai pas envie, on parle trop, mais si tu penses qu'on doit parler, parlons. J'ai pas envie, mais tant pis, je supporte, je me force. Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu trouves qu'on a l'air d'un couple ?
Je sais pas, je suis pas un expert, mais il me semble que oui.
Moi, non.
Pourquoi ?
Parce qu'on se comporte pas comme un couple.
Pourquoi ? Ils se comportent comment, les couples ?
Mais je sais pas. C'est un exemple idiot, mais tu m'as jamais offert de roses.
Tu veux que je t'offre des roses ?
Non, je m'en fous des roses, je t'ai dit, c'était un exemple.
Bah si tu t'en fous des roses, c'était un exemple de merde.
Mais comment je fais pour t'expliquer ? Mais
j'en sais rien, moi, c'est toi qui as voulu t'embourber dans cette discussion. Moi, je suis là, je t'écoute.
Voilà, tu m'aides pas beaucoup.
Comment tu veux que je t'aide ? Je vois pas où tu veux en venir.
Tu vois très bien où je veux en venir.
Je m'occupe pas assez de toi.
Non, c'est pas ça, non.
T'es sûr ?
Ouais.
Bah alors, je sais pas, si quelque chose te vient, dis-le-moi.
On sort jamais ?
Où tu veux qu'on aille ?
On parle pas.
On est en train.
Ouais, mais c'est toujours moi qui commence.
C'est pour ça que je commence jamais, tu commences avant moi.
Ah, sinon t'en auras envie ?
J'en sais rien.
Tu parles.
J'ai jamais essayé, tu commences toujours avant que j'ai le temps de me demander si j'ai quelque chose à dire.
Ça te dérange que je parle trop ?
Non.
Alors, qui commence ? C'est toujours la même question. Mais là, c'est Marie-Josée Sirach, vu la tête qu'elle a fait pendant l'extrait. Non, non, c'était prévu comme ça.
C'était prévu comme ça.
C'était pas un traquenard. Vous savez que tout ça est très écrit à l'avance dans mon conducteur.
Je crois. Que dire de ce spectacle ? Je suis ressortie de là. Alors, pour le coup, Enfin, je sais pas si c'est l'ennui.
C'est,
je ne savais absolument pas quoi penser, tellement j'ai trouvé ça sans intérêt. Donc, je suis un peu désolée, vous me donnez la parole en premier, mais
ça donne le
cette
ton.
Histoire de famille, la mère est morte, enfin, il y a le père qui est en train de dépérir, pauvre vieux patriarche qui perd ses moyens, la fille aînée qui s'occupe de toute cette fratrie, qui fait tourner la maison, qui a décidé, enfin c'est un sacerdoce quoi, elle fait à manger, elle prépare tout, et puis la petite sœur qui elle est amoureuse,
Maria,
enfin et, oui, il y a Martha, c'est l'aînée,
et Maria
qui est donc la jeune sœur qui est amoureuse, mais qui s'entend moyennement bien avec son fiancé. Bon, tout ça c'est dans un milieu populo, c'est sympathique, on va dire, mais sans plus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un petit peu juste. J'ai trouvé les acteurs, j'y suis allée un peu au début. Alors, peut-être que ça s'est rodé. Je ne sais pas si vous y êtes allée après moi ou pas. Mais je les ai trouvés un peu justes. Et en même temps, après coup, je me disais que c'est aussi leur personnage qui est tellement stéréotypé, tellement pauvre finalement, que je les ai trouvés pris au piège de cette pièce-là qui finalement me raconte pas grand-chose.
Bon, Philippe Chevillier, est-ce que ça vous a raconté quelque chose ? Est-ce que ça vous a raconté quelque chose, cette maladie de la famille M ?
Alors moi je l'aime bien cette pièce, et alors c'est curieux parce que je l'ai vue 3 fois en fait, avec 3 mises en scène différentes.
Ah bon ?
Je l'ai vue à l'Odéon, mise en scène par Radu Afrim, si je ne m'abuse, qui est roumain, et je pense que c'est la meilleure version parce qu'elle s'éloignait, elle transcendait le texte et avec des acteurs qui étaient formidables. À la Comédie française au Vieux Colombier, mise en scène par l'auteur. Alors j'en ai un souvenir assez joli,
mais oui.
pas très net, mais voilà. Et là, il y a cette première mise en scène de Simon Fraud, donc qui fait partie de cette compagnie des chiens de paille en Bretagne. J'ai pas trouvé désagréable le spectacle. Je trouve que la pièce est intéressante parce qu'elle a cette dimension. Évidemment, il y a la référence à Goldoni, puisque au départ, on a ce docteur qui va être celui qui va faire le récit,
le narrateur.
Je pensais Tchekhov, moi.
Il y a un petit côté Tchekhov. Il y a aussi un côté. Alors, il parle aussi. Il y a aussi. Alors là, je sais plus si c'est le metteur en scène qui le dit, mais aussi Ken Loach, le côté un peu trash, plus moderne. C'est entre le vaudeville et la tragédie. Et donc, c'est une pièce qui. Comme vous disiez, moi je suis pas sûr que ça soit des clichés, mais les personnages ils sont difficiles à tenir parce que c'est une pièce assez fermée, c'est-à-dire que le texte commande le rythme et commande pas mal de choses au niveau de la mise en scène, et pour en sortir et pour pas en faire quelque chose de réaliste, c'est difficile. Alors je pense que la mise en scène pêche par ce côté réaliste qui a un peu trop poussé le vaudeville aussi. C'est-à-dire que les gens rient un petit peu trop, alors que c'est quand même... les deux autres versions que j'ai vues étaient beaucoup plus tragiques et c'est beaucoup plus élégant comme ça. Moyennant quoi, j'ai trouvé quand même que dans la direction d'acteurs, moi, dans ce que j'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait des acteurs qui s'en sortaient pas mal, que les intentions n'étaient pas si mauvaises. Et donc, je n'ai pas passé à un moment désagréable. J'ai trouvé ça pas mal, moi, voilà.
Bon, alors, ça m'a rien dit. Pas mal. Fabienne Pascaud.
Moi, je partage plutôt l'avis de Marie-Josée. J'ai trouvé ça très, très faible. Je ne comprends pas que ce pareil texte, même s'il a bonne réputation, l'auteur, hein, Fausto Padovino, là...
Paradivino, si vous voulez bien. Paravidino.
Paravidino.
Paravidino, si vous voulez enlever une syllabe.
C'est comme son nom, le pauvre. C'est un auteur dont on dit qu'il est, il est formidable.
Bah, je vous rappelez de Gênes 01, quand même,
voilà,
qui avait monté Nordé,
voilà,
qui avait monté Julien Gosselin aussi.
Mais alors, je trouve ça que cette pièce a été montée 3 fois. Alors là,
au moins, au moins.
Parce que moi, j'en ai mis 3 fois, mais 3 fois à Paris.
J'en tombe des nues, quoi. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai eu l'impression de pas mal de clichés. Vous avez vu Goldoni, moi, dans Le médecin qui raconte, qui suit, qui vient à l'avant-scène au début du spectacle, faire la retape, et puis à la fin, conclure vraiment médiocrement la situation qui va s'amener un peu comme un battleur. On ne sait pas si c'est réaliste, on ne sait pas si c'est farcesque, on ne sait pas si c'est vaudevillesque ou tragique. Alors, le mélange des tons, ça peut être formidable, hein, ça peut être tout à fait shakespearien et passionnant. Mais là, moi, je trouve que c'est plutôt un signe de médiocrité. Je vois pas où ça veut en venir et je suis vraiment restée sur ma faim. Alors, il y a un espoir, puisqu'à la fin, les filles partent, elles quittent, elles laissent mourir leur père dans un hospice. La mère s'est déjà suicidée et les deux filles décident de prendre la poudre d'escampette. Alors j'espère pour elle que ça va aller mieux. Mais bon, je m'en fiche un peu, quoi.
Bon, vous en fichez un peu. Bon, moi, je pars à Vidino. Parce que j'aurais pas... Non. Paravidino, oui, j'ai peur tout d'un coup.
Vu cette fois.
Je ne l'ai pas vu cette fois, mais moi j'ai un souvenir assez mitigé de Gênes 01. Je ne suis pas sûr que ce soit un très très grand auteur non plus. Mais, alors,
c'était pour... mieux Gênes 01,
oui.
Il y avait franchement il y avait un propos.
Il y avait un propos, c'est par rapport à cette mobilisation et ces manifestations qui avaient eu lieu au sommet du G8 et qui avaient conduit notamment à la mort d'un jeune militant qui manifestait contre la tenue de ce G8, mort dans des circonstances assez troubles, on va dire ça comme ça. Donc l'événement était suffisamment fort, une écriture à chaud sur le politique, c'était effectivement une chose louable. Ici, bon, moi je crois qu'il faut vraiment être sur le côté farcesque, quoi. Enfin, Goldoni, c'est même plus que Goldoni, enfin, ou moins que Goldoni, je ne sais pas comment dire cela, mais c'est plus Dino Risi, moi. J'ai l'impression qu'on est plus dans une comédie italienne années 60-70. Oui, mais c'est quand même, pour moi, ce texte, il est plutôt ça. Alors, je pense qu'il y a un équilibre qu'ils n'ont pas forcément trouvé. Moi, pour le coup, je trouve que les filles sont meilleures que les garçons dans ce spectacle-ci.
Comme pour l'autre.
Oui. Non, mais pour l'autre, je ne faisais pas de distinction entre les genres. Là, je trouve que les filles sont beaucoup plus fortes et qu'elles... Elles entraînent, quand quoi, elles sont sur le devant de la scène, quelque chose de plus fort. Mais... Bon, et puis là, le côté narration par ce personnage, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements de Philippe Chevillier sur ces différentes mises en scène, et même si je me souviens très lointainement avoir vu celle de la Comédie Française, mais c'était pas du tout la même couleur. Enfin, on était vraiment dans quelque chose d'assez sombre, en effet.
Et je pense surtout dans la mise en scène à Berthier de Radu Afrim, il y a le personnage qui, à mon avis, est le personnage clé de la pièce, c'est Gianni, c'est le jeune qui est un personnage qui parle tout le temps, qui dit tout le temps des bêtises et qui, à la fin, va connaître une fin terrible.
Le frère, alcoolique.
Qui, en fait, est une forme d'ange un peu noir. Dans ce que j'avais vu, dans le, il était magnifique, le comédien, il est beaucoup plus... Alors, très jeune et magnifique dans la mise en scène de Radu Afrim. C'est le souvenir que j'avais eu. Donc moi, j'avais le sentiment d'avoir assisté à un spectacle beaucoup plus onirique, beaucoup plus subtil sur les... Par exemple, il y a quelque chose, pour le coup, dans le père, par exemple, il faut pas qu'il soit trop personnage, justement, qui la ramène trop sur la farce, parce que lui, justement, c'est quand même un personnage assez pathétique qui doit être un peu en recul. Alors, mais en même temps, c'est vrai que c'est difficile, cette pièce est difficile à manier, mais l'impression que j'ai eu la première fois que je l'ai vue, c'est que c'était vraiment une très bonne pièce. Et j'ai gardé cette mémoire parce que je trouve qu'il y a des répliques qui sont assez fines, en dehors de l'action, des choses qui sont dites et tout, mais c'est vrai que c'est pas facile pour un jeune metteur en scène. Ça paraît facile parce qu'encore une fois, les personnages sont très campés. Mais là, on en a une version un peu, en fait, très réaliste, assez premier degré. Et c'est ça qui. Alors, ils essayent parce qu'à un moment donné, il y a le roi des zones qui, d'ailleurs.
On ne comprend pas pourquoi Schubert.
Mais parce que c'est dans la pièce. Elle se met à chanter, en fait. C'est quand il demande chanter.
Raconte-moi
une histoire.
Dans cet univers,
raconte-moi une histoire. Et il rechante une chanson de la mer. Ou alors, elle, je crois, chante une chanson de la mer et que chantait la mer. Mmh. Et c'est le roi des zones de Schubert. Et du coup, donc, il essaye de jouer à un moment donné parce qu'ils veulent faire dans cette compagnie un peu de danse, un peu de musique, un peu de. Donc il essaye de faire quelque chose, mais voilà, c'est très difficile de faire décoller la pièce. Il faut beaucoup de subtilité, il faut
beaucoup d'outrance. Moi, je pense que
plus trash peut-être. Mais elle est pas facile. Mais moi, j'ai le souvenir et la version de la comédie française était plutôt en nuance avec de les comédiens français. Et ça marchait, mais je encore une fois, j'ai un souvenir ému de si je puis dire, de cette version que j'avais vue à Berthier la première fois. Et la première fois, après, on est porté par un souvenir et on pardonne tout.
Pas d'idées nouvelles par ces discussions, Marie-Jo Sirache.
Non, si ça me fait réfléchir sur la pièce et le sens que peut-être veut en donner son auteur. Je crois que le metteur en scène s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis parce que on sent qu'il y a plein de bonnes intentions, qu'il essaye des trucs, mais quand même il hésite entre. C'est un pseudo-réalisme italien. Enfin, moi. Quand il y a affreux, sale et méchant, voilà, c'est
ah oui, tout là, ça
lui va, quoi, il se lâche. Et là, tout est en retenue, et donc effectivement, les garçons sont un petit peu désespérants, alors que leur rôle n'est pas si faux que ça, parce que les répliques sont juste. En revanche,
caricatural quand même les petits.
Ça
amis,
dépend. Oui, mais il y a des effets comiques parfois qui pourraient marcher, mais qui font un peu flop, moi je trouve. Le coup du téléphone, le quiproquo avec le père qui décroche et qui finalement tout le monde se perd sur le prénom du fiancé, enfin sur le fiancé, mais du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave.
Ça faut que ça aille très vite, et moi je trouve que le dialogue au départ, ce qui est très difficile à jouer encore une fois, c'est entre la fille et le type qui lui dit mais pourquoi on parle, pourquoi tu veux qu'on parle, je trouve que c'est plutôt pas mal écrit, moi je suis pas, je sais pas.
Bon, il faut augmenter un peu le curseur de rapidité, d'outrance aussi, aller dans l'outrance.
Mais quand même, ce garçon, il y a pas de contresens vraiment sur les personnages. Simon Fro, il a quand même essayé de, et il arrive à diriger quand même justement Martha, moi je trouve qu'elle est, il y a quelque chose, et la jeune Maria aussi, il arrive à sortir des trucs qui sont
peut-être trop illustratifs.
Oui, alors c'est l'ensemble.
Bon. Une jeune compagnie, un théâtre 13 dont on ne parle pas souvent.
Il aurait pu choisir une autre pièce quand même.
Ouais. Oui, enfin ça pour le coup, il l'a choisi. Hein. Donc c'est ce travail-là qui nous était proposé, La maladie de la famille M, Anatomie d'un western en famille, de Fausto Paravidino, mise en scène Simon Fro, c'est jusqu'au 15 avril au théâtre 13 à Paris.
France Culture,
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute théâtrale ce soir, c'est Beach Raven, écrit et mis en scène par Frédéric Zontag au Nouveau Théâtre de Montreuil. Beach Raven, l'initiale, né en 1882, semble-t-il, mort à Mexico en 69, ça c'est à peu près certain, c'est le pseudonyme d'un écrivain. Otto Feige, dont l'identité est longtemps restée mystérieuse, il se présentait selon les cas comme allemand, lituanien, hollandais, américain, mexicain. Alors, selon les jours, il disait qu'il était agent littéraire, qu'il était matelot, qu'il était comédien, qu'il était explorateur. Bon, on a trouvé quand même des enquêtes ont été menées pour savoir qui venait en effet d'Allemagne. Sous ce nom de Beach Raven, parce qu'il y a une trentaine de pseudonymes, je crois, il a écrit son roman le plus célèbre, Le Trésor de la Sierra Madre, qui a été porté à l'écran par John Huston avec Humphrey Bogart comme héros. Et quel héros! Et puis j'ai lu que Einstein, Albert, à qui on demandait quel livre il emporterait sur une île déserte, avait répondu n'importe lequel pourvu qu'il soit de Traven. Bon, évidemment, ça classe toujours. Un personnage en tout cas assez idéal pour Frédéric Zontag qui signe ici le dernier volet de son cycle théâtral baptisé Trilogie Fantôme. Il avait fait un spectacle sur Georges Caplan, le fameux homme mystère de La mort aux trousses. Georges Caplan, c'est celui qu'on croit être Cary Grant. Et puis, il avait aussi fait un spectacle sur Benjamin Walter, double, on l'aura compris, de Walter Benjamin. Là, ici, on part sur les traces de Beach Raven.
«
de la rue Rio Mississippi à Mexico City, devant l'immeuble où est mort le 26 mars 1969, l'homme connu sous le nom de Beethoven. Beethoven, qui est l'individu qui se cache derrière ce pseudonyme dont même le prénom reste un mystère? Il a écrit entre 1925 et 1940 des romans populaires au contenu anarchiste qui se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. L'adaptation au cinéma de son roman Le Trésor de la Sierra Madre est devenue un classique après avoir triomphé aux Oscars. Albert Einstein, à qui l'on demandait quel livre il emporterait sur une île déserte, avait répondu « n'importe lequel, pourvu qu'il soit de Traven ». Et pourtant, on ne savait rien de lui. Personne ne savait à quoi il ressemblait. Personne ne savait dans quelle langue il écrivait. Personne ne savait si c'était un seul homme ou plusieurs. Beethoven était le nom sur la couverture des livres. Mais qui était la personne? Il a travaillé à son anonymat avec autant de soin qu'il a écrit ses livres. Et en l'absence d'une personne de chair et d'os, il est devenu un mythe, une légende. Était-il le fils caché du dernier empereur d'Allemagne, d'une actrice de musical? Était-il le célèbre romancier Jack London, l'acteur et anarchiste bavarois Rettmaruth, l'explorateur norvégien Tetorsvan? Était-il le poète, dadaïste et boxeur Arthur Cravant, disparu mystérieusement en 1918? Un groupe de scénaristes communistes hollywoodiens, un ancien esclave noir, un mystérieux millionnaire américain, ou encore le président du Mexique? Partons ensemble pour résoudre le mystère de celui qui fut et demeure encore la plus grande énigme littéraire jusqu'à aujourd'hui.
Et gap! C'est dans la boîte! Alors ça, est-ce que j'appelle un autre chose?
Ce qui avait poussé Glenda à fuir la Californie, c'était l'odeur du scoop et de l'argent qui ne manquerait pas, selon elle, d'affluer. C'était l'idée qu'elle réussirait là où tout le monde avait échoué. Découvrir qui était vraiment Beethoven.
Voilà, la prochaine fois, il faudra que j'écoute l'extrait avant, ça m'évitera de dire la même chose que ce qui est dans l'extrait. Oh bon, ça c'est autant pour moi. Philippe Chevillier commence à nous parler de moi je dis toujours Beethoven.
Beethoven, bon, bah, sacré spectacle que ce Beethoven. En 2h30, 10 acteurs et musiciens nous font traverser un siècle, plutôt le 20e siècle d'ailleurs. On y croise des personnages réels, on y croise Trotsky, Craven, Arthur Craven, Rosa Luxembourg, Anne
Rand. Je dis Craven là pour le coup.
Craven, oui, ouais. Du coup, Beethoven est Craven, on ne sait plus où on en est. John Huston, Patrick Lelay, on y croise des personnages de fiction, donc c'est ces deux journalistes qui sont en 1977 en train de faire une enquête sur Beethoven au Mexique. Un squat dans un cinéma à Paris en 1994, ce sont des admirateurs de Traven, et il y en a un qui va partir au Mexique pour rejoindre la lutte des Indiens Chiapas. Il y a un scénariste d'Hollywood, alors celui plutôt des années 40. Tout ça avec des extraits de films, qui sont d'ailleurs assez judicieux, de la musique live sur scène. Et c'est un spectacle assez vertigineux. Alors ça fait penser un peu à un mélange, si vous pouvez résumer, un peu mix de Gosselin, parce qu'on y pense à cause du Mexique qui est 1936. Ouais. Et je pense, Alexis Michalik, pour le côté, on arrive à la fin à retomber sur nos pieds. C'est-à-dire qu'il arrive à tisser une histoire comme un conteur, parce que ça va très vite, il faut suivre. Et sur scène, ça va très vite, c'est-à-dire que ça change tout le temps, c'est un peu artisanal. Il a un peu plus d'argent qu'avant parce qu'il y a quand même un décor au fond avec des plantes vertes qui sont plutôt des arbres, tout ça. Il y a un petit côté Tintin au Mexique par moment, mais il y a vraiment une énergie et puis une force dans ce spectacle qui m'a beaucoup impressionné. Surtout, je trouve qu'au fond, en plus, c'est intelligent sur le fond, parce qu'il y a à la fois une réflexion sur la trilogie fantôme, donc sur un personnage fantôme qui est quand même très connu, puisqu'il vend quand même 25 millions de livres dans le monde, et qui arrive en fait et qui défend l'idée que c'est l'œuvre qui compte et pas forcément l'artiste. Il y a une réflexion sur la littérature et la littérature révolutionnaire, comment la littérature peut influer sur la révolution. Et puis, petit à petit, plus le spectacle avance, plus on converge vers une critique du capitalisme, de la société de consommation, et sur ces révolutions manquées qui désespèrent une génération. Et c'est fait intelligemment, sans que ça soit trop appuyé, avec toujours de l'humour et du décalage. J'ai des réserves par ailleurs, mais tout ça...
Regardez les tiens pour le deuxième tour.
C'était peut-être un peu foisonnant ce que j'ai dit, mais le spectacle, il l'est un peu aussi.
On sent votre enthousiasme. Moi, je n'ai pas encore vu ce spectacle, donc je suis tout ouïe pour savoir s'il me faut prendre mes places pour le nouveau théâtre de Montreuil, qui est une bonne maison, donc je ne suis pas très inquiet. Fabienne Pascaud.
Ah, Philippe, on a très, 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 très bien parlé. Donc, pour la partie positive, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a un foisonnement et une nouvelle manière de raconter des histoires. Alors là, pour le coup, c'est vrai que ça évoque Michel Nathalie, Gosselin, enfin,
c'est
cette nouvelle...
drôle, ce mix, oui.
Mais oui. Ouais, non, ouais. Mais même moi, je dis moi, Wad, quoi. Un plaisir de raconter, de faire des récits qui s'entremêlent, de retrouver la narration. C'est l'anti, Christiane Jataï. Là, il y a du texte.
Là, je suis d'accord.
Il y a du texte. Ça raconte aussi la politique. Ça raconte la fin des utopies, des idéologies, comme on ne croit plus guère en rien, combien il est difficile de faire de la politique. Simplement, si je reconnais tout ça, et c'est bien fait, ça s'enchaîne bien, la musique, là, pour le coup, c'est un peu saoulant, quand même.
On en arrive à la partie critique, tout de suite.
C'est juste un peu saoulant.
C'est un peu
trop
long.
Moi, je suis sortie... Non, pas franchement long, un peu, mais je trouve que, oui, là...
Saoulant, quel sens ? Fatigant ?
Ben, on ne sait plus où on en est, quoi. On est un peu perdu par peut-être trop de virtuosité. Il y a trop à manger, là. On est goinfré et ça m'ôte un peu du plaisir. Même si je reconnais que c'est assez virtuose, mais trop, c'est trop, quoi. Il y a un moment...
Donc, on est parti du pas assez d'Ithaque au trop
là,
de Beethoven.
Trop, voilà. Bon. Donc, bon. c'est comme ça que je dis saoulant.
D'accord, je comprends mieux.
Je pourrais dire ça me gave si j'étais jeune.
Marie-Louise Sirage, premier regard sur ce Beach Raven à Montreuil.
Même enthousiasme que Philippe et que Fabienne.
Mais moi, sans l'indigestion.
Sans l'indigestion. Moi, je pense que j'aurais resté une heure de plus avec un plaisir. Donc, parce que j'aime beaucoup le travail de
Trois heures et demie, alors.
Trois heures et demie. Mais alors, wow. J'aurais... Oui, sans problème. J'aime beaucoup son travail. J'ai malheureusement raté le premier.
Sur Georges Caplan.
Georges Caplan. Et l'idée me faisait rire rien que sur le papier. C'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde des Georges Caplan qui pouvaient exister. J'ai vu Benjamin Walter. Qui est donc Walter Benjamin. Et j'avais vu The Chags, qui était l'histoire d'un groupe du groupe rock le plus nul que la Terre ait jamais rencontré. Enfin, et c'est toujours chez lui. C'est en même temps très travaillé, très érudit, très documenté. C'est extrêmement bien entremêlé parce qu'il y a un rythme fou, les acteurs passent l'un d'un personnage à l'autre, se changent dans les coulisses presque à vue du spectateur, ils reviennent, ça repart sur des roulettes, et en même temps c'est tout le temps joyeux, on rit du début à la fin. Moi j'ai trouvé, et cette façon de raconter ce siècle, ce 20e siècle, de 1916 à 2016 je crois, enfin oui un siècle, où tout converge vers le Mexique. C'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'il déplace l'épicentre de la révolution mondiale au Mexique. Et il n'a pas tort, finalement. Parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens sont passés par le Mexique. Évidemment, donc, il y a Traven qui est passé, mais Donald Trumbo, le scénariste hollywoodien qui a été exilé après le procès, les procès d'Hollywood, du macartisme, qui est parti. Et donc, on sait qu'il a croisé ou pas Traven, on l'ignore, mais on peut se
Michaud,
imaginer que...
Il y a
eu Trotsky, qui avait été donc accueilli par Diego Rivera et Frida Kahlo. Trotsky aurait joué dans un film... Enfin, tout ça
on
est incroyable,
même, hein.
On le voit. Et l'acteur qui fait Trotsky, en fait, il est incroyable. Rosa Luxembourg, et puis il y a Johnny, ce fameux Johnny, qui sera le Johnny s'en va en guerre de Trumbo, mais qui que Traven croise sur un bateau quand il vient de l'Europe vers le Mexique pour la première fois. Enfin, tout d'un coup, il crée des liens. Alors, on ne sait pas s'ils sont fictifs, s'ils sont réels, mais en tout cas, le moindre indice qu'il peut saisir dans une lecture, dans une fiction, dans un documentaire, hop, il le monte, non pas en épingle, mais il le monte et ça fait une histoire formidable. Ouais. Et ça raconte les mythes familiaux, historiques, artistiques, révolutionnaires, et tout ça est un bouillonnement incessant et extrêmement revigorant, parce qu'on sort de là... bon, oui, on peut refaire la révolution. Il y a tout à faire.
Alors, les réserves de Philippe Chevillier, maintenant.
Non, alors moi, je n'ai pas été saoulé ni gavé, mais c'est vrai que je reconnais qu'il y a une telle abondance de choses qu'on est, on est un peu, on titube un peu en sortant quand
on
même.
On est un peu assommé quand même.
On est un peu assommé, mais moi, j'étais assommé de façon joyeuse, voilà, comme disait Marie-Josée Sarc. Ça m'a. En même temps, je me dis, c'est pas, on a l'impression d'avoir vu 10 spectacles, c'est pas tous les soirs qu'on a l'impression de voir 10 spectacles en sortant d'un spectacle. Mmh. Et puis.
Des fois, on serait content d'en avoir vu un.
Voilà.
Plutôt ça.
Et en même temps, il y a aussi, on l'a déjà dit, mais c'est incroyable que ces comédiens réussissent à. Ils changent tout le temps de peau et de vêtements, etc. Et alors, ça, c'est le petit, peut-être la petite nuance, mais je pense que ça prendra au fur et à mesure des spectacles, ils prendront un petit peu d'assurance. C'est que le jeu, parfois, est encore un peu mal assuré. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont très second degré, qui ne sont pas encore tout à fait, à mon avis, joués assez nettement. Il y a des nuances qui ne sont pas encore. Ils hésitent encore un petit peu. Il y a le personnage de celle qui fait toujours, qui raconte le récit, qui en fait, on se rend compte qu'elle est vraiment très bonne à la fin, mais au début, on a un peu peur parce que c'est elle qui fait de la pédagogie, parce que sans arrêt, il y a cette pédagogie de nous expliquer les choses. C'est un peu la première de la classe, on le ressent pas tout de suite, alors que c'est un personnage qui est au second degré, assez comique et en même temps assez touchant. Je pense qu'ils ont encore un petit peu peur, mais il faut dire qu'il faut qu'ils s'occupent de ne pas prendre les néons sur la tête, de parce que les trucs non, descendent.
C'est un très gros spectacle, hein, vous écoutez, vous l'avez vu sans doute dans les premières représentations, donc il y a une grande marge de manœuvre.
Ah oui, hein. Oui, je pense, c'est pour ça que moi j'ai eu des petites réserves sur le jeu, mais encore une fois sur le fait que le spectacle soit peut-être pêche parce qu'il est trop généreux, mais je préfère un spectacle trop généreux qu'un spectacle trop maigre, donc voilà.
Non, c'est vrai. Puis le spectacle a l'avantage aussi. Moi, je dois avouer mon ignorance. Je ne connaissais pas Bea Treven, donc j'ai appris qui il était. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que finalement, ce qui importe, il a fait une trilogie d'être fantomatique, mais ce qui importe, c'est pas tellement l'identité. C'est aussi ce qu'il nous dit, c'est ce qu'on fait. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a une énergie qui ressort du spectacle qui est formidable. Et puis alors ce que disait ce Bea Treven là que je trouve formidable aussi et qui revient en leitmotiv souvent dans le spectacle, c'est si vous voulez pas que je mente, ne me posez pas de questions. Et ça c'est formidable.
Ouais, ça c'est une belle chose. Mais alors ce Bea Treven, gros spectacle, texte mis en scène Frédéric Zantang, il se joue jusqu'au 14 avril au théâtre de Montreuil. J'ai vu que pour l'instant il y a une date qui est prévue 19 et 20 avril au Grand Air à La Roche-sur-Yon. Reprise tournée en janvier 19, il faut surtout dire aux programmateurs, à vous écouter, oui, dans longtemps, aux programmateurs d'aller à Montreuil pour s'ils veulent encore enrichir leur saison à venir, parce qu'il y a là un travail qui mérite quand même d'être vu. Ils tournent pas beaucoup très dans l'exemple d'après ce que j'en sais.
Marie-Josée Sarrache. Ça vient un peu la frilosité de chers programmateurs quand même, qui n'ose pas prendre des risques.
Je pense pas que le spectacle soit si cher que ça. Il y a un côté bricolé.
Franchement,
en plus,
c'est très artisanal. Comparé à la scénographie de Gosselin, même si on y retrouve quelque chose.
Musiciens sur scène, c'est mais, tout. Hein.
Et oui, puis, on sent que c'est quand même tout ça du bricolage.
Et mais vous entendre, plus encore que les présidents de spectacle, cela peut rassembler vraiment un large public,
oui.
Non ?
Ah oh, oui, oui.
Enfin, moi, puis on apprend des choses. En
plus. Oui, on peut apprendre des choses. Ouais. Ça peut donner aussi envie de lire Bitraven, et notamment le Vaisseau des Morts, qui est mon préféré. Mais Trésor de Sierra Madre, c'est pas mal non plus. Ou de revoir le film, puisqu'il y a aussi cette photo de John Huston avec Bitraven. On pense que c'est Bitraven, mais c'était en fait le.
Oui, c'est ça, c'est l'agent.
C'est l'agent qui disait qu'il était l'agent et John Huston était persuadé que c'était Bea Treven.
Oui, mais c'était peut-être vraiment le Bea Treven qui se faisait passer pour l'impresario de.
Sauf que c'est peut-être le perroquet de Bea Treven qui connaît la réalité.
Ça y est, vraiment déjà. Mais on ne va pas tout dire, il y a un perroquet, c'est vrai.
Bon, mais n'oublions pas l'annonce faite au programmateur de se rendre au nouveau théâtre de Montreuil. Toutes affaires cessantes, c'est-à-dire jusqu'au 14 avril. Hein, donc le temps n'est pas si long pour aller découvrir ce spectacle que vous me donnez. J'avais déjà envie avant, mais encore plus envie de découvrir. Je rappelle que pour l'instant, il faudra être sinon à La Roche-sur-Yon les 19 et 20 avril au Grand Air pour voir les dates suivantes de ce spectacle qu'on suivra. Et nous allons pouvoir conclure cette émission avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui va tout d'abord nous rappeler la question qui était posée dans le jeu vendredi soir avant de nous donner la réponse.
La question était pourquoi Jacopo Robusti était-il surnommé le Tintoret ?
Alors est-ce que vous avez la réponse autour de cette table là ? Pourquoi le Tintoret s'appelle le Tintoret ? Non, je profite pour une fois qu'on a un tout petit peu de temps à la fin de cette émission. Tintoretto. Allez, dites-le, Camille.
Tintoretto signifie le petit teinturier et il était fils de teinturier.
Ben voilà, comment un homme de basse extraction est devenu le roi de Venise. Tintoretto, moi je l'ai appris aussi à l'occasion de cette exposition. Hein. Donc, on fait gagner ce soir des invitations pour le spectacle Les Émigrants, The Ghost Chaser de Volodya Serre. On verra comment il traite, personne n'a encore vu ce spectacle, je crois qu'il commence ces jours-ci. Des invitations, alors le spectacle est à voir en deux parties. Donc invitation pour jeudi soir, le 29, et vendredi, le 30 mars, les deux soirs à 19h. Est-ce au Théâtre de la Bastille, apparaît que cela se passe. Quelle est la question, Camille?
Eh bien, Volodya Serre a mis en scène de nombreux projets inspirés d'œuvres littéraires. C'est une nouvelle fois le cas avec Les Émigrants. Par qui cette histoire fut-elle écrite?
Par qui cette histoire fut-elle écrite? Il faut rester en face du micro, Camille. Hein. Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Vous pouvez également préparer vos commentaires pour l'émission de demain. Alors, commentaires à poster soit sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, soit en suivant le compte Twitter Dispute FC. Le programme de demain, dispute 19h bien sûr consacré à la musique, en compagnie de Lucille Como, Anna Sigalevich et Emmanuel Dupuis. À notre affiche donc, Don Carlos de Giuseppe Verdi, dirigé par Daniele Ristioni. Mise en scène, Christophe Honoré, c'est à l'Opéra de Lyon. Le Domino Noir de Daniel François Esprit Aubert, dirigé par Patrick Davin. Mise en scène, Valérie Lessort et Christian Eck, c'est à l'Opéra Comique à Paris. Et puis Benvenuto Cellini de Berlioz, dirigé par Philippe Jordan. Mise en scène, Terry Gilliam à l'Opéra de Paris.